cours de Raveman sur Shirashirim, lundi 26 octobre 1998, au Cercle Montevideo.
Merkachim, Siftotav Shoshanim, Notfot Mo Ove. On va essayer de traduire. Le Chayav qui a rougé à Tabosem. Sa face, ses joues, que Aruga Tabosem. Aruga, c'est la plantation, le plant. Abosem, du parfum. Migdelot, Merkachim. Migdelot, qui font pousser là où pousse Merkachim. Merkachat, c'est les onguents, ce qu'on utilise en pharmacie, Hirachi. Maaserokher. Siftotav Shoshanim, Notfot Morover. Siftotav, ses lèvres, Shoshanim, des roses, Notfot, qui laisse couler, Morover, c'est un parfum qui s'appelle Mor. En vérité, ça, c'est la suite du verset Madoder Midod Ayafa Banashim, Madoder Midod Shekacha Ishbatana. On avait dit que c'est le Shevach, la louange éclat Israël, on verra quand je m'en. Ici, le Mirach, il va apprendre que la Torah telle qu'elle a été transmise, la parole de la Kadosh Baruch Hu telle qu'elle a été transmise par Moshe Rabbeinu, on la compare à le Chayav Keruga Tabosem. On va essayer de traduire. Arugat Abosem. Le Midrash dit Im esim adam atzmo ke arugazu ou que bosem ze Talmudo mitkayem vim lav en Talmudo mitkayem. Talmudo mitkayem, notamment, ça veut dire son enseignement n'est pas en ce qui concerne le fait d'enseigner, mais en ce qui concerne le fait d'apprendre. Certains mots, c'est l'enseignement qu'il a reçu. Mitkayem, notamment, il tient debout. Il a une possibilité de se tenir. Pourquoi? Parce que Bosem, le parfum, il a quelque chose de spécial chez Akol Mitbas Mimbo. C'est quelque chose où il y a un consensus. On ne peut se situer par rapport à son propre Limoud que par rapport, comme par rapport à une chose qui a un consensus. Et Aruga, c'est le contraire. Aruga, c'est le plan. Chez Akol Dashim, c'est-à-dire que tout le monde foule au pied. C'est quelque chose qui est par terre. C'est pas quelque chose qui est en haut. Ça veut dire que la relation de l'homme par rapport à ce qu'il a bénéficié de son étude, ça doit être une relation de quelqu'un par rapport à quelque chose qui n'a pas d'importance aux yeux des autres, mais qui a tellement d'importance que tout le monde en a besoin. D'un côté, que Arugazu chez Akol Dashim, ça veut dire c'est quelque chose qui est par terre, c'est pas au-dessus, mais de l'autre côté, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin d'une façon égale. Akol Mitbasmin. Il n'y a personne qui dira que le parfum c'est pas bon. Alors, c'est comme si on disait, c'est universel et c'est inutile. Inutile pas dans le sens que ça ne sert à rien, mais inutile dans le sens où on ne peut pas s'en servir ni comme arme, ni comme autre possibilité, parce que c'est quelque chose que tout le monde foule aux pieds. On va essayer de traduire ça dans nos termes. Ce que j'ai appris, ce que je sais ou ce que j'ai compris, d'un côté, Akol Dashim, ça veut dire que ça ne prendra aucune importance. Et de l'autre côté, si ce que j'ai appris, c'est quelque chose qui a une valeur, alors tout le monde apprécie de la même manière. En vérité, en ce qui concerne l'homme, on a déjà vu cette notion. C'est-à-dire que d'un côté, il est écrit dans la Gemara qu'un homme, c'est comme un olam malé. C'est le monde entier. De l'autre côté, lorsque Akadosh Baruch Hu est apparu à Abraham, il a dit « Va nokri et moi je suis afar, va et faire. » Ça veut dire « poussière, je suis quelqu'un qui n'a pas de valeur. » Un homme doit savoir qu'il n'a pas de valeur. Dans quel sens? Dans le sens où il y a des milliards et des milliards de gens, et que lui fait partie de ce milliard, c'est un grain de sable. De l'autre côté, il est olam malé, c'est un monde plat. Ça veut dire que, pourquoi le monde passe par l'autre? Le monde passe par moi. Alors normalement, quand je dis le monde, j'ai l'impression que je parle des autres, tous les autres. Mais c'est possible qu'on parle tout de moi. Ça aussi, c'est une valeur en soi. C'est pas parce qu'il y a beaucoup qu'ils ont plus de valeur qu'une personne. C'est ça qu'on a un principe chez nous. En dochin nefesh bifne nefesh. On ne repousse pas un pour les autres. C'est-à-dire qu'une personne a autant de valeur qu'un million. Pourquoi? Parce que le monde, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup que c'est le monde, c'est parce que c'est le monde. Donc une personne ne peut pas croire d'un côté qu'on a besoin d'elle. Ça veut dire que les choses ne sont pas obligées de passer par elle. De l'autre côté, elle doit savoir qu'elle est olam malé. Il en est de même moi vis-à-vis de l'autre. Lorsqu'il s'agit de l'agresser, je dois savoir que lui c'est un olam malé. Lorsqu'il s'agit de tenir compte de son opinion, je dois savoir que c'est un grain de sable. Moi, je ne dois pas faire parce que l'autre regarde. Ça peut te faire que le sable te regarde. C'est pas gênant. Je ne dois rien faire à cause du regard de l'autre. Mais de l'autre côté, je dois considérer qu'il est olam malé. C'est quelqu'un qui a la plus extrême importance dans la façon que j'ai de me déplacer par rapport à lui. Donc, c'est pas neuf le fait que la Torah demande que l'homme ait ses regards par rapport à lui-même. Ce qui est difficile et plus, en tout cas plus difficilement compréhensible, c'est que ici c'est par rapport à la Torah, par rapport à la parole divine. Quand on dit le Chayav Karuga Tavosem, on parle notamment de la bouche de Dieu. Évidemment, on ne parle pas de la bouche de Dieu en tant que corps, mais en tant que l'expression. Ça veut dire qu'il s'agit ici de la Torah. C'est ça que le Midrash parle de Talmudo, ce qu'un homme a appris, ce qu'un homme possède comme enseignement de la Torah. D'un côté, il doit savoir chez Kulam Dashivalam. C'est quelque chose qui ne donne aucune importance, qui n'a aucune importance. De l'autre côté, c'est comme le parfum que Kulam Idbasim. Alors on va essayer de voir jusqu'où ça a de l'importance. Et comment ça a de l'importance? Si je pense quelque chose, ou je suis arrivé à une conclusion, je ne dois pas penser que c'est une opinion en soi. Si j'ai raison, je possède quelque chose qui est universel. On va donner un exemple. est écrit dans Gemara dans Ktubot. La Gemara demande un din, d'où est-ce qu'on le sait? Et la Gemara amène un verset. Ensuite, la Gemara, elle a une phrase qui est celle-ci. L'amalikra svaraï. Notamment. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de verset? Svaraï, c'est logique. Lisbor en hébreu, ça veut dire penser. Svaraï. Notamment, qu'est-ce que tu me dis que c'est marqué dans le verset? C'est dans la tête que c'est marqué. Et quand je me demande, qu'est-ce que cette question? Si c'est marqué dans un verset, c'est que le din il est là après la Torah. Alors que si c'est marqué seulement dans ta tête, c'est un din de Rabbanan. Toi, tu peux être le plus intelligent du monde, tu t'appelles quand même pas la Torah. Lorsque toi, tu penses quelque chose, c'est possible que c'est vrai, ça s'appelle mes Rabbanan. Ça ne peut pas être mes la Torah. Alors que lorsque la Torah le marque, c'est Minatorah. Il y a une grande différence. Sin alachael et Minatorah, ou Midrabanan. Donc demandez-moi, Forshim, comment est-ce que la Gemara dit la malikra, pourquoi est-ce que j'ai besoin de verser Svaraï, Sin Svara? Bien sûr, tu as besoin de marquer parce que si c'était une Svara, c'est seulement Midrabanan. La Torah a besoin de marquer pour son Midoraita, pour son Torah. Tu comprends ici? Facile. La réponse, elle est simple. Lorsque je pense quelque chose, c'est plus que Minatora. Lorsque je pense quelque chose, je suis obligé d'aller d'après cette pensée. Même si le monde entier est contre moi. Parce que quelque chose qui me donne état, il y a un sur 100 millions de chances que peut-être je me suis trompé, j'ai pas bien entendu, lorsqu'on m'a retransmis le din Minatora. Lorsque c'est moi qui pense, c'est sûr que j'ai bien compris. La malikra, ça va. Ce que je pense, c'est sûr que c'est Minatora. On va dire que c'est le super Minatora. C'est tellement Minatora que la Torah n'a pas besoin de le dire, ce que je pense. Les choses que le cerveau humain peut concevoir comme étant normales ou étant justes, la Torah n'a pas besoin de les marquer. Donc on va dire que moi, avec mon intelligence, ma petite intelligence, je suis un support de la volonté, de la pensée, de la parole universelle ou divine, comme vous voulez, autant que la Torah. C'est ça que m'a dit la Malikra, que c'est besoin de verser, Svara. D'un autre côté, je suis en train de discuter. Je suis sûr d'avoir raison. Mais il y a deux personnes qui ne pensent pas comme moi. Pas 20, pas 50, pas 100, pas 1000. Deux. J'ai perdu, j'existe plus. Il suffit d'être deux et on peut marcher dessus. Parce que la Torah a donné un principe. Acharei Rabim, l'intent. On va d'après. Je dis comment tu veux ? Quelle majorité ? D'un côté tu me dis ce que je pense, c'est Minatora. Et de l'autre côté tu me dis après la majorité. Il faut s'entendre. Ici c'est marqué ça. Le Chayav Karuga Tabosem. La parole divine telle qu'elle est exprimée par le Talmid Racham. Il doit savoir que il doit le dire tout doucement. Si c'est accepté, c'est accepté. Si c'est rejeté, c'est rejeté. Il n'a aucune importance. Il peut ne laisser aucune trace. Notre faute, mort au verbe. Mais malgré tout, c'est une pensée qui est universelle. Personne ne pourra jamais l'annuler. Maintenant, on peut comprendre un petit peu pourquoi Rabbi Yehuda, lorsqu'il a rédigé la Mishnah, a mis l'opinion du Yahid lorsqu'il y avait l'opinion du Rabbi. Vous savez qu'une des questions sur la Mishnah, c'est pourquoi dans la Mishnah, lorsqu'il y a une opinion qui est celle des Chachamim en général, on a mis l'opinion aussi de celui qui discutait avec eux et qui était dans Garin, parce que son opinion n'a pas été acceptée. C'est parce que ce qui a été dit, ce qui a été pensé, ça a une valeur universelle. C'est le Torah. Mais il faut savoir qu'il y a des conduites à adopter, il y a de l'importance à donner. Lorsque toi, tu dois choisir la halakha, on ne peut pas se conduire de différentes façons. Alors la Torah venait l'a dit, deux ont raison contre un. Mais pas parce que un a tort, parce qu'on va pouvoir marcher dessus. Il n'est pas inexistant, mais on peut lui marcher dessus. Marcher dessus, ça veut dire qu'on doit pouvoir se conduire autrement que ce qu'il pense. Et ça n'enlève aucune valeur à sa pensée. C'est ça que maintenant on va trouver des choses. Que quelquefois elles ne sont ni Minatora, ni Midrabanan. On va donner un exemple. Il y a un monsieur qui a disparu, qui a laissé une femme qu'on appelle Aguna. Un jour, il est allé acheter une boîte de petits pois, il n'est pas revenu à la maison. Normalement, on apprendrait d'après la lacha, on a un principe, Alpi Shnai Meidim, Yumat Amet, Lo Yumat Alpi Ed Echad. Il faut deux témoins pour témoigner de la mort d'un. Ok. Vient la Gemara dans le traité des Yevamot, et elle dit que le Gabé Edut Isha Shemet Vaala, en ce qui concerne le témoignage d'une femme dont le mari est mort, il n'y a pas besoin de deux édimes, pas besoin de deux. Pourquoi? Parce qu'on a une halakha. Que Ed Echad Kacher le Edut Isha. Un seul témoin est Kacher, Edut Isha, ça veut dire pour qu'une femme puisse se remarier. Et là-bas dans Rishonim, le Rajba, Niouk Yosef, il ramène. Où est-ce que tu as vu ça? On n'a pas vu une halakha Moshe Missinaï. On n'a pas vu ce dîner dans la Mishnah. Et ils disent, c'est davar masur la chachamim. La Torah, c'est vrai qu'il y a marqué Alpi et Edecha du Matamet. Mais est-ce que ça s'applique dans tous les cas? La Torah l'a laissé au jugement des chachamim. Et d'après ce qu'ils diront, sera le dîner de la Torah. C'est-à-dire qu'on trouve des dîmes dans la Torah qui sont ni Minatora ni Midrabanan. Ils sont ni Minatora parce que tu ne trouves pas dans la Torah. Ils ne sont pas Midrabanan parce qu'ils ont la force de dire ni Minatora. Qui c'est qui les a exprimés? Les Chachamim. Ça, ce qui est marqué ici, Siftotav Shoshanim Notnonon. Migdolot Menachakim, Rashi dit, on fait pousser des plantes dont tout le monde a besoin, qui sont pour guérir. C'est-à-dire que la Torah, elle a une dimension qui est une dimension de émettre universelle. Même l'homme, parce qu'ici on parle du Talmud Chacham, le Chayav Karuga Tabosem, il a cette possibilité-là. Tu vas mettre sur ce minator, c'est plus très important. C'est une force qui a été donnée au Chacham. On va aller plus loin encore. Il y a des fois où les Chachamim annulent un mariage Minatora sans guette. Quelqu'un s'est marié. Et il y a des cas, c'est peut-être un peu compliqué, on ne va pas les énumérer, où l'alakha elle est, le mariage est annulé automatiquement. Sans que la personne donne un guette. Ou alors, il donne ce que Rashi appelle un guette midivrehem. Un guet de Rabbanan. Ça veut dire quoi? Bien que Minatora, ce guet n'est pas cachère, Les chachamim ont dit qu'il est kasher, donne le guet et la femme est divorcée. Tout ça, c'est des lignes importantes parce que ça touche à la chôte de Mamzerim. Ça touche au fondement même du clan Israël. On a déjà dit une fois au nom du Ramban que la pureté de la famille, c'est-à-dire la filiation, le fait de ne pas avoir de Mamzerim dans le clan Israël, c'est la condition même de la Kedusha du clan Israël. Que la Shrina, la présence divine qui est inhérente au clan Israël, n'existe que dans la Kedusha. Ils viennent les Chachamim et me disent, bon, c'est vrai, il n'est pas marié, mais la Torah, il est marié, mais le Rabbanan. Marc Mathieu, il n'est pas marié, mais la Torah. Ou le contraire, il est divorcé, mais la Torah, il est divorcé, mais le Rabbanan. C'est quoi, c'est ça? Lorsque les Chachamim arrivent à une conclusion, ils ont la force d'une décision qui est celle de la Torah. Pas dans tous les cas, dans certains cas. Et encore un autre dit, Yesh Koach Beyad Chachamim Laakor Davar Mina Torah Beshev Valtaze. La Gemara, dans plusieurs endroits, elle dit Yesh Koach, il y a la force au Chachamim Laakor d'enlever Davar Mina Torah. Ils enlèvent un din de la Torah. Au moins Beshev Valtaze. Nous, on le respecte très souvent, lorsque le premier jour de Sukkot qui tombe à Shabbat ou le premier jour de Rosh Hashanah qui tombe à Shabbat, ni on prend le lulav, ni on prend le shofar, qui sont une mitzvah, ni un Torah. Pourquoi? Parce que les chachamim l'ont annulé. Ça veut dire que les chachamim ont la force, la accord d'avoir mis un Torah. Ils peuvent me dire, ne fais pas ça. Je vais attendre de le faire. On peut annuler. Ça, c'est ce qui est marqué dans le verset. Si Stotav Shoshani Notfot Morover, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Parce que je ne peux pas avoir un émettre de la Torah sans passer par les Chachamim. Parce qu'il y a des choses dont la Torah elle-même a donné la force aux Chachamim. A donné la force à l'homme. La Malikra, sera. Mais il faut se rappeler au début du verset que Aruga Atabosem, ce n'est qu'une Aruga. C'est pas un arbre. C'est pas important, c'est Aruga. Aruga, c'est là où on marche, les prés, les champs. C'est là-dedans qu'on trouve le bosem. Ça, c'est une notion. Il y a encore une deuxième notion qu'on doit comprendre. C'est la notion de ce qu'on appelle le vrai. C'est que chez nous, c'est une notion difficile à comprendre. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Parce que c'est la paracha de Noir, on va citer un midrash. Qui est écrit dans le Yalkut Shimon, dit de la paracha de Noir. Lorsque Noir a voulu fermer la Teva, il écrit là-bas dans le Midrash que le Sheker, le mensonge est venu, il a dit, prenez-moi avec vous dans la Teva. C'est vrai. Alors Noir lui a dit, attention, ici, il n'y a que les gens mariés. Parce que chaque animal, il était avec Batzugo et Benzug. Il fallait trouver. Et il remarie-toi et on pourra te prendre. Mais célibataire, on ne prend pas. Alach etzelapachat. Le mensonge est allé etzelapachat ou pachata en araméen. Pachat, ça veut dire la perte. Et il est allé voir la perte, il lui a dit, est-ce que tu es d'accord de te marier avec moi, d'être mon benzoug, parce que comme ça on pourra aller dans la Teva. Elle lui a dit, et qu'est-ce que je vais gagner? Alors le mensonge lui a dit, chaque chose que je gagnerai par le mensonge, toi tu vas le perdre, je te donnerai, tu vas le perdre. Et elle a dit, ça me convient. C'est marqué dans le Midrash. C'est pas du... Alors ils sont rentrés tous les deux dans la Teva. Et à partir de là, au moment où ils sont sortis avec les autres. Et chaque fois qu'il y a un mensonge, on perd tout ce qu'on a gagné avec le mensonge. Qu'est-ce qu'il veut dire le Midrash? Midrash veut dire une notion qui a l'air très simple. On croit qu'avec quelque chose qui n'est pas vrai, c'est vrai que d'un côté, on ne se rapproche pas du bon Dieu. Ça, on comprend. Mais on a des petites compensations. Quelquefois, elles peuvent être grandes, ces compensations. Alors, on peut se mentir à soi-même, on peut mentir aux autres, on peut. Le fait d'être dans le mensonge et non dans la vérité, même si je conçois qu'à long terme, peut-être, mais je crois qu'à court terme, ça vaut la peine. Ça, c'est tant qu'il n'y avait pas eu le Maboul. Mais le Maboul, il est là pour me rappeler que quand ça frappe fort. Il n'y a pas de rescapé. C'est ça le sens du déluge. Le déluge, c'est pas pour me dire, tu sais, il y a une génération que. Non. Pour dire, c'est quand ça tape dur. Parce que derrière la vérité, il n'y a rien. Ça ne tient pas. Alors même si Akadosh Baruch Hu a promis qu'il n'y aurait plus de Maboul, c'est pas un Maboul collectif, il n'y a que de Maboul individuel. Où il y a des Maboules. Mais il en reste que je dois comprendre que il n'y a que ce qui est vrai qui tient la route. Ce qui est shaker, j'ai l'illusion moi de croire que ça existe et que j'ai gagné quelque chose. C'est vrai que c'est contre le monde, mais j'ai gagné. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, qu'est-ce que vous avez gagné de travailler le Shabbat? Il a commencé à rire. Il a dit, venez, penchez-vous à la fenêtre. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il dit, vous n'avez pas la BMW? Vous ne la voyez pas? Comprenez, à partir du Maboul, de cette génération-là, on doit savoir que tout celui qui pense comme ça, c'est totalement erroné. Il n'a pas gagné la BMW, il a perdu une BMW. Ah, il en a une. C'est pas très grave qu'il en ait une. Seulement quoi? Les animaux qui étaient dans la Teva, on les voit, ils ont été disparus, une partie encore là. Les hommes qui étaient, ils sont toujours là. Ça, on ne le voit pas. On n'a pas vu le mensonge et la perte sortir de la Teva ensemble et où est-ce qu'ils sont passés. Mais ces notions qui existent, comme les autres notions de MK des hommes, il y a des choses qui doivent être vraies. Si elles sont fausses, elles n'existent pas. Je dis, mais je ne vois pas ça. Non, tu ne vois pas. Mais tu dois savoir que c'est sorti de la Teva. Ça veut dire que c'est ça la conséquence du déluge. Jusqu'au déluge, on n'avait pas la preuve. On croyait que le mensonge, on peut bâtir une vie. Ah, c'est vrai, après on donnera des comptes. Il y a des gens qui vous disent, je sais que ce que je fais, c'est pas vrai. Mais jusqu'à ce que je rencontre le monde, je trouverai déjà de quoi me défendre. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on attache une importance, où on croit qu'il existe ce qu'on appellerait, dans un langage commun, une réalité. Chez nous, c'est pas sûr qu'il existe une réalité. Il existe un émet que l'on doit définir. en dehors de ces définitions, ce que je vois, ce que je vois pas, c'est pas très intéressant. Parce qu'une seconde avant le Maboul, j'aurais aussi dit, tu vois, regarde ça, tout marche bien, c'est plein de BMW. Ça, c'était une seconde avant, une seconde après. Pire que ça, Rabotai. Il est marqué dans Rashi, qui cite le Midrash, que Noach mikatne amana aya. Noach, il était petit en Emouna. Mamin veinoman. Il était croyant, mais pas tout à fait croyant. Il faut savoir que lorsqu'on parle de ce genre de personnage-là, lorsqu'on dit petit en Emouna, c'est pas de rapport avec nous. On n'a pas besoin de croire que nous aussi on peut être petit en Emouna. Parce que ça n'a pas de rapport. D'où est-ce que le Midrash sait ça? Parce que la Torah a écrit ceci. Que Noach est rentré dans la Teva. Mipne me amaboul. À cause de l'eau du déluge. Ça veut dire que quoi? Il est rentré lorsqu'il a été forcé. Mais puisque tu savais que le déluge allait commencer, il fallait rentrer d'abord, il ne fallait pas attendre que l'eau te pousse à l'intérieur. Pourquoi tu rentrais mipne me amaboul? C'est donc qu'il n'y croyait pas en Dieu. D'accord. C'est bizarre, pourquoi? Parce que si vous regardez le texte, il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Noach et il lui a dit Ki le yamim ot shiva, j'ai ajouté 7 jours pour le repentir. Sinon, 7 jours, pas, ça commence. Le type, il voit que dans 7 jours, l'ouragan, il s'approche. Ça, il t'a compris, non? Même le plus bête a compris. Qu'est-ce qu'il croyait Noach? Là, quand tu pas mamine, ah, c'est quoi? Mipne miamabou, il a attendu d'en avoir jusque-là. Pourquoi t'as besoin de ça pour comprendre? Alors, je veux dire, marqué dans les Sfarim ceci. C'est que Noach, il croyait que même jusqu'au dernier moment, à Kadosh Baruch Hu, il allait utiliser la Mida de Chesed et il n'est pas fait une chose pareille. Ça veut dire quoi? C'est vrai que d'après le Din, la Mida Tadin, il a compris que c'était nécessaire. Mais il s'est dit, jusqu'au dernier instant, il est possible que finalement, Akadosh Baruch Hu aussi, il est rachamim. Il est aussi chesed. Donc, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer. Et ça, c'est un raisonnement faux. C'est un raisonnement faux. Parce que c'est celui qui s'appuie sur la chose incompréhensible. Le raisonnement, juste le raisonnement du Dîme. Chesed, tout ce truc-là. On évalue parce qu'on ne veut pas y croire. On croit à ces choses-là parce qu'on ne veut pas croire que ça vous arrive. C'est comme malheureusement des gens qui sont très malades, ils vous disent, j'étais sûr que ça ne m'arriverait jamais à moi. Pourquoi? Parce que Chesed et l'autre, ah, le dit, on trouve normal. Ça leur arrive à l'autre, il faut bien qu'il y ait des gens qui aient le dit. Mais dans la distribution des rôles, je suis sûr que moi, on m'a laissé Chesed. On veut y croire, parce que c'est trop dur de croire au reste. C'est-à-dire que je veux croire au Sheker. Parce que c'est trop dur de croire qu'il n'existe pas. Va aller plus loin encore. Il y a marqué au moment du passage de la mer rouge, Vayaminu Bashem ou Bemoshem. Vayaminu, ils ont eu confiance dans Hachem et dans Moshe son serviteur. Demande à Gemara, mais il y a marqué avant Vaye Amen Aam. Prenez avant. On voit que lorsque Moshe Rabbeinu est allé pour annoncer qu'il allait délivrer le peuple, il y a marqué Vayamena. Ils ont cru. Alors pourquoi après il y a marqué Vayamin Bashem ou Moshe Abdo. On est obligé de croire qu'il y a différentes formes de Emouna. Lorsqu'on est venu, on a dit, vous allez délivrer, ils ont cru. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la mer Rouge, ils ont cru qu'on allait délivrer pour les précipiter dans la mer. Ou pour qu'ils soient rattrapés par Pharaon. Ça aussi, c'est Emouna. Ça veut dire que quoi? Ils n'osaient pas croire à plus. Et c'est vrai que croire à plus, il faut être gonflé. Qu'on va te fendre la mer pour toi. Fallait y penser. Où on retrouve cette notion-là? Chez Avraham Avinu. Il est marqué Ve'emin Bashem Vayarchave Alot Tzedaka. Il a eu confiance en la Kadosh Baruch Hu. Vayarchave Alot Tzedaka. Et Dieu l'a, on va dire, a apprécié cette Emouna comme une Tzedaka, comme un don. Comme ça est traduit Rashi. C'est-à-dire qu'il y a des tzedakas, il y a une Emouna qui est comme ça, il y a une Emouna qui est comme ça. Un vieux qui a 99 ans, qui est marié avec une vieille qui a 90 ans, et vous allez lui dire qu'il va avoir un enfant, c'est difficile d'être marié. Non seulement c'est difficile, c'est impossible. Parce qu'on n'a plus de repères dans la réalité pour concevoir les choses. C'est-à-dire que quelquefois, le Emet, il a tellement peu de repères qu'on ne sait pas sur quoi l'asseoir. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a des stades dans la Emouna. Et que arriver devant la mer Rouge, ils ont vraiment pensé que c'était un mauvais coup qu'on leur avait fait, on va les délivrer pour qu'ils soient rattrapés et tués, ou qu'ils se précipitent dans la mer. On leur a demandé alors, eh bien, c'est la faute, t'as pas de chance, ça arrive dans la vie. Tu dis quoi, tu vois pas que la mer, elle va se fendre? Ça va la tête. On va aller pire que ça. Nous, on a souvent dit que la Emouna commence là où le Sechel se termine. Ça veut dire que si on demande à quelqu'un en main, donc quelle va être la solution, la Emouna, c'est de dire qu'il y a une solution que je ne connais pas bien d'ailleurs. Mais elle est inconcevable avec mes propres repères. Comment est-ce qu'elle est concevable? Parce qu'elle fait partie du Emet. Mais tu peux ne pas la concevoir. D'un côté, tu as le désert, de l'autre côté, tu as la mer, et du troisième côté, tu as les Égyptiens. Tu dis, tu vas t'en sortir comment? Je ne sais pas, mais puisqu'on m'a dit que je serais libre, je vais m'en sortir. Après, ils pensaient comme ça. Parce qu'ils avaient déjà vu qu'on les avait sauvés à la mer Rouge. Donc, après être sortis de là, ils ont compris, et ils avaient une émouna telle, qu'on aurait pu leur dire maintenant... faites n'importe quoi, ils étaient sûrs que ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent et ce que mon cerveau pense, c'est pas obligatoire d'être vrai, je peux ne pas avoir de solution. Et la vérité existe quand même. Le Emet et le Sheker, ils dépendent de ça. C'est-à-dire qu'il est possible que dans la réalité, il n'y ait que le Sheker qui marche. Et pourtant, c'est un Sheker. À la W, c'est vrai qu'il y a bien W, mais en vérité c'est lui qui a perdu, mais pas dans le monde tel qu'il a l'air, dans un autre monde virtuel où le shaker n'a pas de place. Le malheur, c'est que celui qui ne sait pas se déplacer dans ce monde du Emet et qui n'a de repère que ce qu'il voit ou ce qu'il entend ou ce qu'il comprend, c'est difficile pour lui d'avoir une stature ou une envergure un petit peu ne serait-ce que morale. C'est-à-dire que celui qui ne croit que en ce qu'il voit, c'est impossible. Et ça, c'est difficile pour nous de le concevoir. que tout ce qui est Sheker n'existe pas. Ça ne fait pas partie des choses. C'est très difficile pour nous de concevoir. Mais on est obligé de vivre avec ça. Si on n'est pas capable de vivre avec ça, si j'étais un psy, je dirais qu'on est malade. Mais en tout cas, on n'est pas en bonne santé, parce que c'est ça la seule dimension du émettre qu'il y a de... qui peut donner une valeur à l'homme. Ça veut dire qu'un homme doit pouvoir tenir le coup en ayant une valeur dont il croit qu'elle est absolument universelle, et il n'arrive même pas à la traduire parce qu'elle n'existe pas dans la réalité. Kulam Nashim Alav. Si tu le dis, tout le monde te marchera dessus. Mais quand même, tu dois y penser et tu dois avoir la force de t'y attacher. Et si tu commences à le traduire, à l'expliquer, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. C'est ce que nous... il y a une expression, Sheker Eno Raglaim. Le Sheker, il n'a pas de pied. Il s'écroule. Mais ça, c'est une expression du émettre, c'est pas une réalité. Parce que dans la réalité, la seule chose qui marche bien, c'est le shaker. Si on va avec le émettre, on a très peu de chances de réussir. Et quand même, je dois pouvoir vivre comme ça. Et ce n'est que les gens qui savent vivre comme ça, qui ont une colonne vertébrale construite. Ce qu'on pourrait appeler une existence morale. C'est qu'un type s'appelle Alter. Ce Alter-là, il allait rechercher tous les non-juifs qui ont sauvé des juifs pendant la guerre. Et à tous, il leur a posé la même question. Pourquoi ? Et tous lui ont répondu à la même raison. C'est normal. Il n'y en a pas un qui a trouvé une raison philosophique. Il n'y en a pas un pour lui prouver qu'il avait raison. Tous lui ont dit, eh ben, c'est normal. Je ne vais pas laisser quelqu'un crever. Et celui d'à côté, pourquoi c'était pas normal ? Parce qu'il y a des gens qui ont une construction. On peut appeler ça une colonne vertébrale morale. Ah, dans la réalité, ça va leur attirer les pires envies. Ils sont prêts. Ils sont prêts à ça. Pourquoi ? Parce que c'est normal, on ne peut pas être anormal. Ah, le normal, peut-être on va t'envoyer dans une chambre à gaz. Eh bien, il y a des époques où c'est ça le normal. Qu'est-ce que je veux dire ? On doit pouvoir accepter que c'est ça la normalité. Normalement, ces gens, ils auraient dû dire, c'est vrai, j'ai eu un courage extraordinaire. Et tous leur demandaient si vous c'était à refaire. Tous ils disent, c'est évident qu'on le referait. Quelques-uns, hein, ils disent, comme je suis très vieux, peut-être j'aurai moins de courage. Et je ne suis pas sûr que je suis devenu lâche. Mais si je suis de nouveau jeune comme j'étais, je n'ai pas de safe que je referais. Avec les mêmes risques. Vous savez qu'il y en a 50% qui sont partis. Vous êtes fusillés dans les camps à cause de ça. Oui, quand même, oui. Pourquoi ? Parce que c'est normal. Aucune justification. Comment quelqu'un peut posséder la pensée universelle au point de dire que c'est normal et que tu risques le camp de concentration ? T'es fou ? Faut pas être présomptueux comme ça. Faut dire, ah, il faut cacher un juif, ça, ça fait, c'est pas tellement pas chouette. Je vais y penser, je vais y réfléchir, on va faire un colloque, on va voir. D'abord, on va voir le normal. On va aller après la majorité. Ensuite, on va... Et puis, qui dit que je dois risquer ma peau pour un autre ? Il y a 1000 questions qu'on peut se poser. Et à ces questions-là, personne n'a aucune réponse. Sachez-le. La seule réponse, c'est de dire que je ne conçois pas autrement. Le bosem, le parfum qui se dégage du émet, il est universel. C'est pas quelque chose... J'ai dit, bon, je suis comme ça. Il n'y a personne qui a répondu. C'est ma nature, moi je suis casse-cou, je suis comme ça, j'aime pas l'injustice. Non, c'est normal. On trouve ça normal.
Franchement, je remarque que dans l'islam pratique, c'est normal, c'est souvent sans leur enlever le mérite qu'ils ont, c'est des gens simples qui ne savent pas expliquer autrement leur comportement par un mot simple.
Ça c'est quand c'est un, mais quand c'est beaucoup. Pas toujours réduire tout le monde vers dire ils sont, c'est des pauvres. Et puis il n'y a pas que les pauvres types, Dafka. Moi je ne suis pas l'avocat de Alter. Mais Dafka il prouve que c'est seulement les intellectuels qui l'ont sauvé. Tous les gens simples, ils sont aussi simples que les animaux. Les animaux ils ne sauvent pas les gens. C'est seulement les gens qui avaient beaucoup de culture et beaucoup d'acquaintance qui ont sauvé les autres. Les gens sans culture, il n'y en a pas un qui a sauvé. Il y a des professions où il n'y a pas eu un seul qui a sauvé un juif. Boucher, charcutier, machin. À part ça, il fait des statistiques. Des gens qui n'ont pas de livres, il n'y a pas un seul qui a sauvé des juifs. Seulement des gens qui ont des livres. Des gens qui ont une culture. Ah, à partir d'une certaine intelligence. Donc lui, il a l'air de prouver le contraire. Parce que les gens simples, c'est eux qui ont assassiné. C'est les gens qui réfléchissent qui ont pu le sauver. Donc lui tendrait à dire juste le contraire. Mais enfin, ça c'est statistique à lui, moi je... Alter Marek, ouais.
Pour appuyer ce que dit monsieur, dans un exemple un peu similaire, il y a les gens qui plongent à l'eau quand il y a, quelqu'un qui est en train de se noyer, ils ne réfléchissent
c'est,
pas. Ils
sont c'est rarissime. Place. La plupart, ils sont déjà partis donner des coups de téléphone pour alerter les autres. Quand il y en a un, on lui donne une médaille. Vous en faites ça, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'y crois pas. Et ceux qui se lancent à l'eau... sont rares ceux qui ne savent pas la nager.
Oui, mais
il
y a pas beaucoup, c'est
de
gens
aussi. Non, je ne crois pas à ça, je crois que c'est le contraire. Ça veut dire que quoi? Il y aurait même. Et c'est en ça que la Torah, elle se veut être une pensée. C'est ça ce qu'on appelle Talmudo. C'est-à-dire qu'il doit imprégner la personne. Parce qu'il y a des choses qui ne viendront jamais d'elles-mêmes. Je vous donne un exemple. Cette même personne qui allait sauver, il y a tant et tant de personnes, on va prendre des otages, et si les personnes ne se rendent pas, on tue les otages. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui, dans la pensée, pourrait décider une chose pareille. Il n'y a que la Torah qui peut décider. Parce que là, j'ai déjà besoin d'une référence. Il n'y a plus de normal. Quelqu'un va dire, voilà, on va prendre des innocents si tu participes pas à ça, à ça. Il n'y a plus de normalité. À partir d'un certain moment, l'esprit humain devient étranger un certain type de raisonnement. Pourquoi? Parce que on ne peut se risquer dans aucun cas. Parce que quoi qu'on fasse, on est piégé. Et que cette histoire-là, selon mon avis, ça c'est dans les films américains, où un type rentre chez lui le soir, il y a un tueur qui est en train de menacer sa femme et ses enfants. Il lui dit, ou ceci, ou on tue votre femme et vos enfants. Alors lui sort son pistolet, mais il ne braque pas sur le tueur. Il tue la femme et les enfants. Comme ça, maintenant, c'est clair. Ça, c'est le fou. Vous comprenez? C'est une pensée. Mais c'est pas Talmud Obiado. C'est pas Talmud Obiado. Parce que c'est... On ne peut pas comprendre qu'on règle les problèmes de cette façon-là. C'est vrai qu'ils sont bien réglés. Parce que pour échapper au chantage, on peut tuer l'objet du chantage. Comme ça, on désarme le maître chanteur. Mais c'est la façon du fou. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont étrangères à l'esprit humain. Et là, je suis obligé d'avoir une construction. Je ne peux pas dire. La malikra, c'est pareil. Il n'y a plus de ça. C'est là où j'ai besoin de la Torah. L'esprit humain n'est pas capable d'inventer qu'il faut sonner le chauffard à Rosh Hashanah. Ça, c'est Talmud Oviedo. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas arriver. C'est-à-dire que d'un côté, on doit être prêt à savoir que si on pense, et ce qu'on a pensé, ça n'a aucune importance, et ça peut ne laisser aucune trace. Et d'un autre côté, on est obligé de penser que ça a une telle importance que je suis obligé de m'accrocher jusqu'au bout. Et si je ne m'accroche pas, j'ai tout perdu. Si vous regardez juste le verset au-dessus, alors vous verrez que ce qui est marqué Einav Kuyoni Malafik Emaim Rochatsot Bechalav Yoshvot Almilet. Quelle est la traduction qu'on a fait? En vrai, on ne l'a pas fait, c'est très difficile la traduction. Je vais pourquoi. Einav, ses yeux, que yonim comme des colombes, alafik emaim au bord des eaux, rochatsot bechalav, qui se lave dans le lait, yoshvot al milet, qui sont assises al milet. Hein? Je sais dire millette. Lorsqu'on en chasse une pierre dans une bague, l'endroit prévu pour la pierre, où la pierre s'en chasse exactement, ça s'appelle millette. Yoshvot al millette, ça veut dire hein, dans leur endroit réservé. Ici, on parle Einav, que Yoni Malafik Emaim. Einav, ses yeux. Einav, dit le Midrash, c'est Ve'ime Eine Aedan Ne Seta Adabarazi. Eine, c'est le Sanhedrin. C'est-à-dire que le peuple juif bénéficie d'une loi, mais il a besoin, lui-même, de réserver des gens pour que cette loi puisse avoir une application. Et c'est eux qui sont censés interpréter la loi, et ils s'appellent Eineida, les yeux de l'Assemblée. Ça compare Einav que Yoni Malafik Emaim, ça veut dire qu'il ou le Sanhedrin, il est bien à sa place, et qu'il rentre dans le cadre exact de la halakha qui a été prévue. Ça veut dire que l'homme peut s'imbriquer dans le cadre du Emet, en révélant par sa pensée des côtés de la Torah. Parce que vous savez que chaque fois que j'interprète, c'est obligatoire que je mette quelque chose qui fait partie de ma pensée à moi. Alors ça c'est de la Torah ou c'est pas de la Torah? C'est oui de la Torah. C'est lui qui a pensé ou c'est pas lui qui a pensé? C'est lui qui a pensé. Ça veut dire que ma pensée elle a une force de Torah. Elle n'a pas seulement une force de Torah, elle a une force de vérité. Parce qu'encore, je pourrais dire la Torah, c'est un système. Mais pour nous, c'est la force de vérité. Donc ici, si je veux bien comprendre les psukim, c'est que Akadosh Baruch Hu, tel qu'il s'est exprimé pour le peuple juif, il a laissé la place à l'homme pour être enchâssé dans le système. Mais une condition, c'est qu'on se prenne assez peu au sérieux pour penser que si les autres ne pensent pas comme nous, ce qu'on pense n'a aucun intérêt. Même si c'est vrai, entre parenthèses. Pour ça, sachez qu'on est obligé de connaître le Midrash, tout le monde le connaît d'ailleurs, au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il dit le Midrash Rabba dans Bereshit. Les malachim, les anges, se sont mis traburot, kitot, kitot, traburot, traburot. Ils sont placés en groupe le Hémet a dit à libérer que l'homme ne soit pas créé. Pourquoi ? Chez Koulodover Shkarim, l'homme ne peut pas s'approcher de la vérité, véritablement. Il n'est pas capable. Chesed Amar Yibare. Le Chesed a dit que l'homme soit créé. Chez Koulo Gomel Chassadim, un homme, il est Gomel Chassadim, il est capable d'attention envers son prochain. Shalom Amar Alibare. Le Shalom a dit non, il ne faut pas qu'il soit créé. Chez Koulo Ktatot. L'homme ne fait que se disputer. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Ishli Chemet Arza, il a jeté la vérité par terre. Chez Neymar, Emet Meretz Misra, Titzmach, la vérité elle viendra de la terre. Il y a un sefer qui amène le nom de Rabbi Chaim de Brisk, une kushia. Une question simple. On a vu que le bon Dieu a jeté la vérité par terre. Ça veut dire que quoi? La vérité, c'est plus à Kadosh Baruch Hu de la définir, c'est à l'homme de la définir. Et on va la définir sur la majorité. Ok. Mais le shalom, pourquoi? C'est pas le shalom qui l'a jeté par terre. Pourquoi la vérité? Il y en a deux qui ont dit qu'ils ne sont pas créés. Et le Hémet et le shalom. Rabotai, la réponse, elle est simple. Voilà ce qu'il répond. Il dit, si tu jettes le shalom, il ne reste plus rien du shalom. Parce qu'il n'y a pas de shalom au niveau de la Kadosh Baruch Hu, au niveau de l'homme. Ou c'est du shalom, ou c'est pas du shalom. Mais la vérité, elle peut être au niveau de l'homme, et ça suffit pour l'homme. On n'a pas besoin de la vérité qui est celle de la Kadosh Baruch Hu. Telle que l'homme peut la définir, ça suffit. Emet, mais Eretz Yitzmach, à partir du moment où la majorité a décidé, même si c'est le Yachid, même si c'est celui qui est seul qui a raison, on s'en fiche, ça devient l'étalon de la vérité. Donc la vérité cassée, elle peut être retrouvée, même en petits morceaux. Mais le shalom cassé, des petits morceaux de shalom, c'est pas du shalom. La preuve, ils sont en train de faire la paix depuis 5 ans, il n'y a toujours pas de shalom. Ça marche pas. Ou tu es en paix, ou tu es pas en paix. Si on réfléchit bien, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut peut-être dire que le Hémet, c'est ce qui me donne une colonne vertébrale. C'est pas grave si dans certaines situations c'est plus Hémet. C'est pas grave. Mais ça m'a conduit dans tel état de situation à savoir comment faire. Et c'est ça le rôle du Hémet. Le rôle du Hémet pour l'homme, c'est peut-être pas l'absolu. C'est qu'il puisse avoir quelque chose qui le conduit, ça suffit. Alors que le rôle du shalom, c'est donner des possibilités. Si on m'embête un petit peu ou si on m'embête beaucoup, on me casse les ailes. Je ne peux pas fonctionner. Sans shalom, ça ne marche pas. Alors il n'y a pas de petit shalom ou de grand shalom. Ou tu as ou tu n'as pas. On fiche la paix, on fiche pas la paix. Mais le Hémet, sa valeur pour l'homme, c'est pas la valeur d'absolu par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à un étalon philosophique qui serait le Hémet. On s'en fiche. Le Hémet, c'est par rapport à ce qui marche chez l'homme. Si on voit que c'est un consensus, et ça peut réunir les gens, et ça peut leur donner de quoi marcher, alors c'est Hémet. Ça me suffit. Ah, c'est vrai qu'il faut interpréter selon la Torah, évidemment. Tu vas pas inventer les choses. D'accord. C'est vrai que si c'est une Torah, il faut un consensus. C'est vrai. Ça veut dire qu'ici, on comprend la valeur de Koulam Dachin. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Si tu vas chercher le Hémet, où il est? Il n'existe pas en soi. Parce que Ishir Hémet Ansa, on l'a cassé par terre. Cassé par terre, ça veut dire que c'est à l'homme de définir le Hémet par un consensus. Donc, en vérité, toi, tu n'as rien du tout. Bien que tu peux être le meilleur penseur, tu peux avoir la meilleure trouvaille, mais tu n'es pas capable de conduire les autres avec ça. Ça ne marche pas. C'est pas du Hémet. Alors que le shalom, c'est pas ça. Ou ça marche ou ça ne marche pas. Ce qui ne marche pas, c'est pas du shalom, c'est pas possible. Ça ne peut pas être relatif. Parce que le shalom, c'est une condition pour le développement de la personne. je suis pas en paix, je peux pas me développer. Tu dis, mais tiens, un petit peu. Le petit peu, il me sert pas grand-chose. Machin qui est le petit peu de Hémet, il peut m'éclairer. Parce que qui me dit que dans ma vie, j'ai besoin, moi, d'avoir, de posséder tout le Hémet? Qui me dit? Peut-être qu'avec un petit peu, je peux déjà réussir ma vie. À la totalité, laisse-la pour le bon Dieu. C'est pas si grave de ne pas posséder la totale. Une partie, ça peut marcher aussi. Ça veut dire que je dois voir dans le Talmud, dans ce que j'étudie, le maître qui me sert. Maintenant, ça peut être tout à fait relatif. C'est pas grave, ça marche quand même. Ça s'appellera aussi. Bon, sûrement des questions, alors on va... Ah non, c'est toujours à partir de l'interprétation de la Torah ou à partir de ce qu'on appelle Svara. Ça veut dire qu'il y a des choses dont la Torah n'a pas besoin de s'exprimer, mais qui sont Svara. Mais c'est soumis à majorité. Il faut convaincre les autres. Toi tout seul, t'as rien. Il faut que ça marche quelque part. Attention, il y a les deux choses. Il y a ou c'est l'interprétation de la Torah, ou c'est ce qu'on appelle une Svara. C'est quelque chose qu'on conçoit. Il y a des choses qui ne marchent pas avec la conception seule.
Ouais. C'est le cas du Hémet qui n'est pas le Hémet de la majorité. Et si c'est le Hémet pour Akadosh Baruch Hu, est-ce que Akadosh Baruch Hu considère qu'il a le Hémet ou non?
Eh bien, il n'est pas dans le Hémet. Parce que Ishir Hémet Arza, c'est ça ce qu'on dit qu'il a cassé. Le Hémet, il a été jeté par terre. Ça veut dire que ce que le bon Dieu pense, c'est inintéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que la majorité pense. Ça qui est important. C'est pas la même chose, Milat HaEmet. Quand on parle que Yaakov c'est Milat HaEmet, c'est tout à fait autre chose. Je veux dire que ça veut dire que Yaakov c'est Milat HaEmet, mais ça, on peut en parler une autre fois, mais pas maintenant. Avraham, il avait Milat HaChesed. Ça veut dire qu'un homme, son moteur, c'est le fait qu'il accepte d'avoir des besoins qui sont des besoins d'altruisme. C'est que personne n'a jamais réussi à comprendre ce problème-là. D'où vient l'altruisme chez l'homme? Il y en a qui disent que c'est de l'égoïsme renversé. T'aimes bien qu'on te fasse plaisir, alors d'abord tu fais plaisir aux autres parce que c'est par investissement. Mais on n'est pas obligé de penser comme ça, qu'on est foncièrement dégoûtant. On n'est pas obligé de penser comme ça. Il y a chez l'homme quelque chose qui fait qu'il est poussé à se mesurer à l'autre. Il y a une deuxième ida qu'on appelle le din ou la ira. C'est que l'homme, fondamentalement, il respecte l'environnement. Il comprend qu'il est une partie de quelque chose. Vous avez tout de suite compris qu'une c'est mitzvah tassé, une c'est mitzvah lotassé. Il y a des choses qu'on me demande de faire, il y a des choses qu'on me demande de ne pas faire, c'est-à-dire de respecter l'environnement, respecter le bon Dieu. Il y a des choses qu'il me demande de faire, je fais. Ça c'est une chose. Comment faire pour devenir maître du chesed et maître de la ira, et un jour contrôle comme ça, et un jour contrôle comme ça. C'est ça ce qu'on appelle le Hémet. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait en soi ces deux choses-là, il peut construire quelque chose qui est en plus, et être le maître des Midot. Il est maître de la Mitzvah Tassé, et il est maître de la Mitzvah Tassé aussi. C'est ce qu'on appelle Hémet. C'est ça ce qui est marqué, c'est l'Hémet de Yaakov. Que Yaakov s'amida ses Hémet, dans le sens où c'est lui qui tient les rênes. De quoi? Du chesed et du din. Il n'est pas dépendant du chesed, il n'est pas dépendant du din.
Quand on a son émet, sa vérité, et qu'on
Non, c'est ce qu'on a dit. On a dit Kulam Dashivalav. On peut te marcher dessus même si tu penses avoir raison. On peut être soumis même si on pense qu'on a raison. Où il y a un mensonge là? On n'est pas obligé de dire que nous on a faux. On va pouvoir dire que ça n'a pas d'importance ce que nous on pense.
C'est un gros travail.
Eh bien oui. Je veux dire, la preuve, c'est un gros travail. C'est que la plupart des gens qui ont tort devant la majorité, ils passent toute leur vie à prouver qu'ils ont raison.
Et un jour, parfois on trouve qu'ils ont raison.
C'est possible. C'est pas intéressant.
Et la majorité change d'opinion à ce moment-là.
Ouh.
Et après, c'est bon.
C'est pas sûr. C'est pas sûr.
On prend un exemple très païen. Par exemple, un peintre, par exemple, dans son époque, il est considéré après. Un exemple très païen, très...
Parce que c'est des choses qui dépendent du goût, donc qui dépendent de la mode. C'est pas des choses qui dépendent du jugement, vous comprenez? C'est difficile d'avoir des goûts différents des choses qu'on vous a montrées tout le temps. Prenez un gosse aujourd'hui, il écoute la radio toute la journée, et puis vous lui mettez la 5e symphonie, et puis vous dites arrêtez, tu casses la tête. C'est difficile de juger autrement, ni si on parle dans des notions de pensée qui ont l'air plus objectives. Kulam Dashimalab, ça veut dire que dans l'histoire d'avoir raison, c'est pas très très important. On peut faire partie de l'histoire en ayant eu tort. Par exemple, c'est vrai que Beit Shammai, il a jamais eu raison pratiquement, mais il a quand même une valeur. Il est Beit Shammai, c'est pas rien. Il faut savoir aussi baisser la tête. Ça, Kulam Dashimalab. C'est pas que tu as tort. C'est pas que tu as tort. Le mensonge, c'est si je dis que j'ai tort. Je suis pas obligé de le dire. Je peux dire, on m'applique pas, on tient pas compte de moi. C'est ce qui est marqué Kulam Dashimana. Je suis petit, on tient pas compte de moi, c'est vrai. Mais dire que j'ai tort, je suis pas obligé de dire. Au contraire, je veux dire que j'ai raison.
Vous avez dit tout à l'heure que ça n'aurait pas de valeur à
penser. Non, bien sûr que non. La preuve, c'est que c'est marqué dans la Torah. La Mishnah, qui est donc la Torah orale, elle donne la pensée de la majorité avec la pensée de l'individu. Pourquoi les deux? Non, c'est que les deux ont la même valeur. Ah, mais il reste que la halakha, elle est selon la majorité. Mais on a quand même ramené celle-là. C'est aussi de la Torah.
Vous avez cité un midrash où Dieu avait jeté à terre le...
Ouais, la vérité.
Et Shalom était resté, la paix était restée debout. Est-ce que ça ne veut pas dire que la vérité doit chercher le Shalom?
Je vais vous dire, les vérités qui cherchent le shalom, c'est aussi des vérités d'opportunisme, parce que le shalom, ça n'est pas en soi une vertu sans la vérité. Le shalom en soi, si dans ce shalom il n'y a pas une vérité, c'est nul le shalom. Vous comprenez? On peut pactiser avec le diable en disant toujours qu'on fait le shalom. Mais ça, c'est pas du shalom, ça, c'est du compromis. Le shalom, il a besoin d'une certaine vérité. Si je retrouve pas une vérité dans le shalom, il est inintéressant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses. Le conflit entre le shalom et la vérité, ça n'est pas un conflit. On dirait un conflit de situation. Je vous dis pourquoi. Parce que souvent, c'est bien de mentir pour le shalom. Et on n'a pas besoin de dire que c'est la vérité, on peut dire que c'est un mensonge. Et c'est là que se trouve la vérité. C'est un peu embêtant, mais c'est là que se trouve la vérité. Et on n'a pas besoin de dire que c'est la vérité. On doit dire que c'est le mensonge. Mais c'est ça la voie à suivre. Alors, en ce qui concerne la voie à suivre, dans cette situation, c'est la vérité. Mais dans la situation, objectivement, non. Vous comprenez? Par exemple, j'ai remarqué que pour le shalom baït, on a le droit de mentir. Si j'ai des dettes et que je ne dors pas la nuit, ça ne sert à rien que l'autre qui est à côté de moi, il ne dorme pas non plus. Rien qu'à se disputer. Alors pour le shalom, ça va bien, Baruch HaShem. Non, c'est un mensonge. C'est ça la vérité dans cette situation-là.
Bayit comme exemple.
Non, non. On ne parle pas du Shalom Bayit, on parle du Shalom Bayit parce que c'est marqué dans la Gemara que Moutar, le Shalom du Bien Shalom, en ce qui concerne le Shalom Bayit. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas extensible. C'est l'exemple qui est marqué dans la Gemara. Avraham Avinu. Donc c'est là-bas, on parle de cet exemple. Mais il n'y a pas marqué Bipne Shalom Bayit. Il est marqué Bipne Shalom. Donc on prend toujours l'exemple Shalom Bayit, c'est ce qui est marqué. Mais c'est Bipne Shalom. Mais attention, la limite, c'est lorsque dans la situation, ça devient faux. Lorsque je suis obligé de dire à l'autre, tu as raison, à cause du Shalom. Ça, je ne peux pas. Parce que c'est plus un remède de situation. Là. Ça, c'est déjà mentir sur la l'échelle de ce qui est vrai ou non. Ça, je suis pas obligé de faire. Attention.
Pardon.
Ouais.
J'ai vu les risques et les difficultés d'obtenir le shalom. Celui qui est confronté trop souvent, une journée, on peut être confronté de nombreuses fois.
Le shalom, absolument.
Une vérité qui, sur le coup, est un, objectivement, est un petit mensonge.
Ouais.
Est-ce qu'on ne risque pas d'être emporté par cette
si. C'est pour ça que quelqu'un qui a trop besoin de faire le shalom, il vaut mieux qu'il s'éloigne et qu'il aille un peu vers le maître de temps en temps. Ouais, c'est très mauvais comme situation. C'est comme celui qui a trop de cas de force majeure. Il vaut mieux me chaner ma com, me chaner ma zal. Il vaut mieux qu'il se trouve une autre situation. Ça veut dire que on ne peut pas passer sa vie à ça. C'est impossible. Parce qu'on devient une victime. Il faut savoir rester maître. Il y a un moment où ça y est. Vous comprenez? Parce que le shalom, c'est une construction. Si en vérité, il n'y a pas de construction. C'est pas la peine non plus.
À Paris, dans la, je ne sais pas, enfin, dans une société à Paris, on peut être confronté à de nombreux. Pas, la frontière est fragile, je veux dire.
Peut-être qu'il ne faut pas y rester toute sa vie non plus.
Je prends l'exemple de Beit Shalom. Par exemple, ouais. Vous dites qu'il faut mentir à l'autre, ouais. Bon, ça va bien alors qu'on a des dettes. Et supposez que l'autre dit ah, mon manteau de fourrure, ah, mon consommant, ah, mais. Et alors à ce moment-là.
Alors on dit qu'on a beaucoup d'argent, mais il est investi.
Sur le départ, l'intervention des rabbinim dans la loi,
ouais.
Ils se souviennent, ils interviennent pour protéger une loi de la Torah.
Ah, bien sûr, ils vont pas pour attaquer.
Faire des barrières pour pas qu'on.
Bah, évidemment.
Mais si je transgresse le dérabbanan, il y a aussi marqué l'otassour, donc ouais. Je suis encore en train de transgresser. Excusez-moi, de transgresser une loi de la Torah.
Non. Bon, là, vous touchez à un problème délicat. C'est une machloket entre le Rambam et le Ramban dans le Sefer HaMitzvot au début. Est-ce que chaque transgression de Rabbanan, c'est en même temps une transgression de la Torah, parce qu'on a dit l'otasso. Il faut comprendre une chose. C'est vrai que c'est la Torah qui m'a dit d'obéir au Rabbanan. Mais la nature de ce que j'ai transgressé, ça reste que c'est le Rabbanan. Vous comprenez? On va donner un exemple. Il y a la maman qui dit à son garçon, tu vas aller te promener avec le babysitter. Il en reste que si le babysitter va aller à gauche et l'enfant va aller à droite, il se dispute avec le babysitter, pas avec la maman. Vous comprenez? C'est-à-dire que la nature de l'ordonnance, elle reste de Rabbanan.
Et la transgression?
Même si la transgression est d'Oraita, la nature de l'ordonnance reste de Rabbanan. La marque de est-ce que la transgression est vraiment d'Oraita ou non? Mais la nature de l'ordonnance, elle reste de Rabbanan. Par exemple, si j'ai un doute, ça restera que ça fait de la banane, on dit le coup là, pas le romra. Ah là, c'est la Torah, ça fait de l'altasso, non. Vous comprenez? Là, il faut faire attention. Nous, c'est difficile de juger de l'importance. Pour savoir qui c'est qui a le plus d'importance, il faudrait être confronté à une situation où l'une se trouve aller à l'encontre de l'autre. C'est là qu'on va juger l'importance, sinon c'est pas intéressant. Donc lorsque on a un rabbin contre un Torah, c'est celui de la Torah qui passe. Donc ça n'a pas la même importance. Mais dans la vie, ça a autant d'importance. Vous comprenez? Parce que c'est pour dire que les rabbins, c'est pas grave si on transgresse. La Torah l'a dit, l'otasso, n'inadava. Alors là, c'est vraiment néo-verbe la Torah. Vous comprenez? Une fois, j'ai vu quelqu'un qui dit que la Torah, elle a donné un bâton au Chachamim. Et lorsqu'on se fait taper dessus, ça fait aussi mal que sur la Torah qui tape ou les Chachamim qui tape. Le bâton, il est le même. Sauf que celui qui tient le bâton, c'est pas la Torah, c'est les Chachamim. L'importance, elle devient la même. Okay.